France Musique. Été classique, les grands interprètes, France Musique.
Il est 11h et toute cette semaine, les grands interprètes sur France Musique, c'est au tour de John Eliot Gardiner. Et qui dit John Eliot, dit Jean-Sébastien.
Thank you.
Jean-Sébastien Bach, le motet BWV 226, Der Geist hilft unser Schwachheit auf. J'ai du mal à le faire, mais j'ai quand même pas mal réussi celui-là. John Eliot Gardiner, en 2000, lors de son pèlerinage Jean-Sébastien Bach, on aura l'occasion de revenir sur cette entreprise formidable. On en parlera un peu plus tard dans cette émission. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Quand on parle de John Eliot Gardiner, on peut commencer chaque émission par de la musique de Bach. Non seulement il y a des merveilles là-dedans, c'est certainement ce qu'il a fait aussi de mieux. Et dans la plus longue durée, on reparlera aussi du livre qu'il nous a donné il y a quelques années, qui est une somme absolument magistrale sur l'œuvre et sur la vie du cantor de Leipzig, comme on l'appelle souvent par périphrase. On a laissé hier John Eliot Gardiner en pleine création de son premier ensemble, le Monteverdi Choir, qu'on entendait d'ailleurs ici en 1964. Il continue ses études à Paris à la fin des années 60, où il se fait martyriser, je vous l'ai raconté aussi hier par Nadia Boulanger. Mais parallèlement, la vraie carrière professionnelle commence à prendre très rapidement son envol. Très vite, il se retrouve à diriger à l'English National Opera, qui est l'opéra populaire anglais, comme on dit à Londres, moins exposé que Covent Garden, mais tout de même l'English National Opera, vous savez, c'est celui où les œuvres sont données non pas en langue originale, mais parfois dans des versions un peu transformées, et en langue du cru, enfin tout simplement en anglais. On donne Mozart en anglais, on donne Debussy en anglais, pourquoi pas, à l'English National Opera. C'est le principe général qui est resté valable en Angleterre. Alors, c'est moins lourd, on va dire, moins exposé, des productions moins dangereuses d'une certaine manière que le grand opéra londonien qui est Covent Garden. Mais tout de même, que John Eliot s'y retrouve en 1969, alors qu'il a à peine 26 ans, dit bien que sa carrière, très très tôt, commence à s'inscrire dans le paysage londonien et dans le paysage musical. Pas seulement d'ailleurs comme chef de chœur, je vous l'ai dit hier, c'est d'abord comme chef de chœur qu'il se pense, mais il passe très rapidement à l'orchestre, et vers cette chose un peu étrange et peut-être pas naturelle à l'époque pour lui, qu'est l'opéra. 1969, donc son première production, l'ENO, l'English National Opera, pour la flûte enchantée de Mozart. C'est pas ce qu'on va entendre ici, c'est une flûte qu'on va entendre un peu plus tardive. Là, cette fois-ci, vous allez voir, il a pris de la maturité et du galon.
Seine Sprache ist dahin. Ich kann nicht tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nicht tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin.
Thank you.
von euch selbsten hörte ich, dass wie ein Tiegeltier sich erließ und alle Gnaden mich an Rast und Rufen ran, 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 setzte mich den Hunden mit.
Geschwister, bist du lieber allein, dafür sollst du sein Diener sein.
Hast du den Prinz, mein Teufel, wer? Mein Leben ist hier nicht, am Ende schleicht mein Bein, er von mir wie ein Tier. Drin sein.
Darin wirst du Blöckchen tönen,
wenn ich sie auch spielen können.
Oh, ganz gewiss, ja, ja, gewiss.
Silberflöckchen, Zauberflöten, singen zu unser Schutz und Blöten. Lebet wohl, sie fallen gehen. Lebet wohl, ob wir sehen. Lebet wohl.
Quintette du premier acte de la flûte enchantée de Mozart. C'était Michael Shad de Gerald Finley qu'on entendait entre autres ici en soliste, les solistes baroques anglais, dirigés par John Eliot Gardiner en 1996. On évoquait tout à l'heure Covent Garden. Eh bien, justement, John Eliot Gardiner s'y présente pour la première fois en 1973. Il a 30 ans, tout juste encore très très jeune. C'est rare, le grand opéra d'une grande capitale européenne qui accueille un chef aussi jeune. Faut croire que l'Angleterre est un peu plus ouverte que ne peut l'être souvent la France. Et c'est pour quelle œuvre? Eh bien, Iphigénie, Antoride, de Gluck. Je ne sais pas si déjà John Eliot aimait le répertoire français. En tout cas, ça va être une première pour lui. Gluck, il en sera d'ailleurs un magnifique défenseur dans la suite de sa carrière. Il saura toujours trouver dans cette musique le juste équilibre entre le classicisme et une forme discrète d'hédonisme. Peut-être aussi le bon goût. C'est tellement difficile à définir, le bon goût. Et ça, pour le coup, John Gardiner l'a souvent dans les musiques qu'il dirige, en particulier celle de Gluck. On va s'en rendre compte ici, dans le duo entre Pylade et Oreste.
C'est Dieu que je rêve, dont il tire pour ajouter au tourment que j'endure.
Que me demande,
que me laisser mourir,
que me laisse
Dieu fléchissez son cœur,
regardez-moi,
mon père. grippe ta constance funeste. Toi, mon âme, toujours se refuse à mes voeux. Ne sais-tu pas que nous le reste, la vie est un service affreux. Ne sais-tu pas que c'est ma parisine, que nos accords sont de gilercie. Ne sais-tu pas que ma belle bourgie, la sonde autour de moi, c'est mon tout lieu. Et voici des serpents leurs mains salvent ton corps ou fuit. Et toi qui l'âme me fuit et m'aborde, il me livre à leur cours arrêté à grand Dieu. Et quoi mi connais-tu, pirade, qui t'apprend? Eh bien, pilar, est-ce à toi de mourir? Ô Dieu, votre courroux, ne peut-il se fléchir? La mort m'est tourment, et livre la
Thomas Allen et John Haller en Oreste et Pilate d'Iphigénie en Tauride de Gluck au troisième acte de la tragédie. C'était John Eliot Gardiner qui dirigeait ici l'orchestre de l'Opéra de Lyon à l'époque où Gardiner était à Lyon. De cela, on reparlera demain.
Été classique, Lionel Esparza, France Musique.
Au début des années 1970, lorsqu'il a besoin d'un orchestre pour aller avec son chœur Monteverdi, Gardiner a créé un Monteverdi Orchestra. C'est assez ponctuel, mais enfin ça arrive de temps en temps et de plus en plus à mesure que sa carrière et celle de son chœur évoluent. Ce qui est intéressant de signaler, c'est qu'au début, ce Monteverdi Orchestra n'est pas du tout sur instrument ancien, mais sur instrument moderne, avec mode de jeu plus ou moins adapté. Mais enfin, on voit là que John Eliot Gardiner n'est pas un baroqueux immédiat, il n'est pas né à la baroquerie tout de suite. c'est venu avec le temps, peu à peu, dans sa trentaine, avec un mélange de goût pour la chose, de nécessité aussi, puisqu'il y avait une mode qui était en train de naître, de se créer, de se développer, parce que la nouveauté, parce que l'intérêt, la découverte était vraiment de ce côté-là. Il faut voir là, bien sûr, aussi l'influence de Thurston Dart, dont on a parlé hier. Et cela va, cet appétit vers la musique ancienne et des modes nouveaux de jeu et d'appréhension de répertoire le plus ancien, ça va conduire Johnny Lloyd Gardiner à fonder en 1978 un orchestre en propre sur instrument ancien, fondé d'ailleurs avec beaucoup des membres du précédent Monteverdi Orchestra, le nom de ce nouvel ensemble, The English Baroque Soloists, les solistes baroques anglais. C'est donc la deuxième grande entreprise musicale après le Monteverdi Choir de Johnny Lloyd Gardiner. Les English Baroque Soloists vont donner très rapidement de très beaux disques qui vont les faire connaître sur la scène internationale. Ainsi, en 1982, c'est Water Music de Handel.
Thank you.
Deux extraits des Water Music de Handel, troisième suite par John Eliot Gardiner et les solistes baroques anglais en 1982. On aura l'occasion de le redire peut-être dans cette émission, John Eliot Gardiner ne fait pas tout bien en termes de répertoire. Il y en a certains de prédilection qu'il fait magnifiquement, d'autres dans lesquels il est un peu moins convaincant. Il a le mérite d'y aller et d'aller dans des répertoires extraordinairement larges, hein, sur peut-être 3 à 4 siècles de musique. Mais enfin, ce qu'il faut dire, c'est que sur Handel, il est toujours absolument formidable. Il a dès le départ trouvé quelque chose qu'il a conservé tout au fil du temps. Ce quelque chose, ben c'est tout simplement une certaine manière de raconter en musique et en son, en donnant la sorte de parole implicite. On l'a entendu ici dans ces Water Music, qui ne sont que de la musique instrumentale. On a quelque chose du lyrique, de la voix qui reste tout à fait présent, et chez Handel, c'est absolument obligatoire. Ça, il a su le trouver, Gardiner, en faisant tout cela de manière dynamique, engagée, en débarrassant Handel aussi de cette pompe de compositeur officiel qui était ce à quoi on le réduisait parfois avant les années 60. On va le retrouver d'ailleurs dans Handel, dans ce Dixit Dominus, ici côté musique religieuse, avec le Monteverdi Choir. Alors très intéressant, qu'on va entendre là, on est en 1976, donc quelques mois avant la création des English Baroque Soloists qu'on vient d'entendre, et c'est justement l'orchestre Monteverdi dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire déjà les English Baroque Soloists, mais dans une formation, on va dire, sur instruments modernes ou cherchant, pas complètement passé de l'autre côté, en tout cas pas officiellement, il reste quoi qu'il en soit que le résultat, lui, est vraiment très convaincant. Extrait du Dixit Dominus de Handel, enregistré en 1976 par John Elliott Gardiner avec le Monteverdi Choir, le Monteverdi Orchestra. On avait ici des voix au tout début de cette pièce, vous les avez peut-être entendues, de Felicity Palmer et Margaret Marshall, presque trompettantes. Hein. On sent qu'il y avait quelque chose d'à la fois sec, mais encore très profond, presque ronflant dans cette manière d'interpréter la musique de Handel. On est à cette fin des années 70, entre deux mondes, il est vraiment en train de se passer quelque chose là. Il faut signaler aussi que à cette époque-là, John Elliott Gardiner connaît une carrière vraiment florissante. Hein. En 1979, il fait ses débuts aux États-Unis avec l'Orchestre symphonique de Dallas. Il va collaborer avec cet orchestre pendant de très nombreuses années. C'est un orchestre, bien sûr, sur instruments modernes. Hein. Donc, il mêle les deux de front. Et on peut penser peut-être un point commun avec Nicolaus Harnoncourt, qui lui aussi a été violoncelliste à l'Orchestre symphonique de Vienne avant de fonder son Concertus Musicus et de mener les deux pendant les années 60 de manière parallèle et sans oukase, sans exclusive. Le mouvement baroque dans les années 70 s'est construit, c'était certainement un peu nécessaire, sur des exclusions, sur du dogmatisme, en disant il y a cette manière-là d'interpréter la musique sur instrument ancien avec articulation ancienne et si on le fait pas, on se trompe. Et ben, on voit que des gens comme Gardiner ou comme Harnoncourt ont dit aussi à cette époque-là, il n'y a pas de vérité révélée. On peut peut-être faire Mozart aussi sur des instruments modernes. Encore faut-il réfléchir tout cela et remettre les choses sur le métier constamment, ce que d'ailleurs Gardiner a réussi à faire jusqu'à aujourd'hui, on le verra jusqu'à la fin de la semaine, en réécoutant peut-être des pièces et en voyant de quelle manière ces interprétations ont pu grandement évoluer avec le temps. J'évoquais Nicolaus Harnoncourt, ils ont un point commun tous les deux, le goût, l'appétit, la passion même pour la musique de Claudio Monteverdi. On va l'entendre ici avec cet extrait de l'Orfeo par John Elliott Gardiner.
Del mondo, che ne abbrò. frena. Sol che tutto circondi e tutto miri, dagli stellanti giri, dimmi, credesti mai di me più lieto e fortunato amante? Fu ben felice il giorno mio ben che pria ti vidi, e più felice donna che per te sospirai, poiché al mio sospirar tu sospirasti. Felicissimo il punto che la candida mano degno di pura fede a me porgesti. Se tanti cuori avessi quanto che al cielo eterno, e quante chiome an questi colli a me il verde maggio, tutti colmi sarebbe troppo caldo quel piacer ch'oggi mi fa contento.
Rosa del Ciel et les réjouissances de Berger qui suivent à l'acte 1 de l'Orfeo de Claudio Monteverdi, Julian Bird en Eurydice, Anthony Rolf Johnson en Orfeo, le chœur Monteverdi, les solistes baroques anglais dans cette version John Eliot Gardiner de 1987. Monteverdi a une véritable fascination de la part de John Eliot Gardiner, il l'a dit depuis l'âge de ses 18 ans au moins, d'ailleurs assez émouvant, très très récemment pour les 450 ans, je ne sais plus quel anniversaire de Claudio Monteverdi, John Eliot Gardiner a fait toute une tournée avec les opéras, les vêpres, des œuvres, etc. pour essayer d'aller jusqu'à fond dans cette œuvre et puis la remettre sur le métier des années après. On se souvient évidemment de tous les enregistrements qu'il a pu donner il y a des années, mais vraiment c'est aussi, non seulement avec Jean-Sébastien Bach et avec Handel, l'un des compositeurs, Monteverdi, qui est resté au cœur du travail du chef anglais.
Été classique, Lionel Esparza, France Musique.
Une sorte de petite curiosité pour ce qui suit, on s'imagine toujours, puisqu'on l'enferme évidemment dans le petit tiroir des baroqueux, que John Eliot Gardiner n'a pu travailler qu'avec des chanteurs et des chanteuses entre guillemets baroques. Ça a été évidemment beaucoup le cas, on a évoqué hier le fait qu'il met en avant énormément les chanteurs de son ensemble, le Monteverdi Choir, mais il s'est retrouvé aussi de très nombreuses fois avec des grands chanteurs du circuit international, comme on dit couramment. On va écouter ici un extrait de la Clémence de Titus, qu'il a enregistré en 1991, Mozart donc, avec dans le rôle de Vitellia, rien de moins que Julia Varadi.
Oh,
L'air de Vitellia au premier acte de la Clémence de Titus de Mozart, c'était Julia Varadi, les solistes baroques anglais dirigés par John Eliot Gardiner en 1991. Hier, on a été un peu frustrés, vous en souvenez peut-être, en fin de programme, moi en tout cas. J'avais prévu de diffuser la musique pour les funérailles de la Reine Marie de Henry Purcell, version John Eliot Gardiner bien évidemment. Et puis, problème de temps, on n'avait pas pu. Ah bon, on va se rattraper aujourd'hui avec la marche et le premier chœur de ses funérailles. C'était en 1970. On retrouve John Eliot avec les membres du Monteverdi Choir, mais aussi le Monteverdi Orchestral, la formation terminale ou première des English Baroque Soloists. Et puis, côté trompette et timbales, les Choral Brass Ensemble.
Thank you.
Bouleversant, n'est-ce pas? Je vous signale que c'est cette version d'ailleurs qui, il y a 2 ans, est arrivée en tête de la tribune des critiques de disques, à la fois chez les critiques et chez les auditeurs, ce qui est quand même un signe pour cette musique, pour les funérailles de la Reine Marie de Henry Purcell, version John Eliot Gardiner en 1977.
À réécouter sur francemusique.fr.